BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau, cet ultime numéro de 500 millions d'Européens. Suivez le guide aujourd'hui parce que il y a deux guides qui vont bientôt paraître. Un guide à l'usage des eurosceptiques et un guide à l'usage de ceux qui veulent contrecarrer les eurosceptiques. Bonjour Pervenche Berès, eurodéputé socialiste. Vous allez publier le FN au Parlement européen. C'est la fondation Jean Jaurès qui vous accompagne dans cette aventure. En gros, le programme du FN, ce n'est plus la France, tu l'aimes ou tu la quittes, mais c'est l'Europe, on ne l'aime pas et on veut la quitter.
En tout cas, le Parlement européen est pour le FN un espace d'intervention absolument majeur, compte tenu de leur présence à la suite des élections de 2014. Donc, ça vaut le coup de regarder ce qu'ils font ici.
Bonjour Jean Quatremer.
Bonjour.
Correspondant de Libération, auteur du blog Coulisses de Bruxelles. Alors, vous y allez franchement. Vous sortez un nouvel opus, Les salauds de l'Europe.
Guide à l'usage des eurosceptiques.
Guide à l'usage des eurosceptiques, chez Calman Levy.
Je tente, dans ce bouquin, de sortir un petit peu du blanc-noir. D'un côté, vous avez les europhobes pour qui tout est pourri, et donc il faut faire exploser l'Union européenne. Et de l'autre côté, vous avez ce que les europhobes appellent les eurobéas, les européistes, comme dirait Hubert Védrine, les fédéralistes, en disant « Mais non, tout est bien, tout va très bien, il faut continuer comme c'est ». Je suis désolé, il y a toute une partie de l'Union européenne telle qu'il fonctionne, qui doit être réformée profondément, sinon, effectivement, on va dans le mur.
Bonjour Dominique Riquet, eurodéputé UDI, vous nous venez de Valenciennes. Vous m'avez dit une chose l'autre jour qui m'a interpellé. Vous m'avez dit, mais enfin, l'Europe est la grande gagnante de la mondialisation. J'aimerais beaucoup que l'on revienne sur cette déclaration avec vous dans cette émission. Vous pensez vraiment ça?
Ah, je pense que l'Europe, enfin, c'est pas moi qui le pense, hein, il suffit de regarder les chiffres. Et les chiffres sont extrêmement explicites. L'Europe gagne beaucoup dans la mondialisation.
Elle est probablement la seule à tenir ce discours-là que je connaisse. Parce que, enfin, honnêtement, quand on entend autour de nous, tout le monde, et justement le Front National et autres, et tous les europhobes et tous les populistes surfent sur le fait. Et moi-même, je surfe largement sur cette question, sur le fait que l'Europe est la grande perdante de la mondialisation. Bonjour Jean-Sébastien Lefebvre.
Bonjour.
Contexte. Vous n'avez pas encore de livre, de déclaration choc.
Non, rien à présenter aujourd'hui.
Bon, bah écoutez, ce sera pour la prochaine fois. Les salauds de l'Europe, guide à l'usage des eurosceptiques et des eurocrates. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir, hashtag 500 ME. Alors, Pervenche Berès, vous publiez, ça va sortir le 16 mars, le Front National, le Parlement européen. C'est intéressant, ça sort finalement au bon moment, là, pendant la campagne.
C'est
pas tout à fait un hasard, j'imagine. Le soir de sa victoire aux élections européennes, Marine Le Pen nous disait, elle annonçait qu'elle voulait détruire l'Union européenne de l'intérieur. Est-ce qu'elle y arrive?
Écoutez, manifestement non. Mais ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'actualité autour des affaires. Et Madame Le Pen, dans une stratégie bien connue, qui est que la meilleure défense, c'est l'attaque, donne l'impression que le Parlement européen est contre elle. Hein. D'ailleurs, dans une émission récente, elle a dit « Le Parlement européen, c'est l'ennemi ». Bon, elle passe sa vie à gagner de l'argent grâce à l'ennemi, donc il faut savoir un peu quelle est la cohérence politique de tout ça. Mais surtout, ce discours sur les affaires n'éclaire pas sur ce que fait Madame Le Pen et ses collègues élus avec elle en 2014 ici.
Mais c'est la plus grande délégation d'eurodéputés ici au Parlement européen, le Front National. Et est-ce que le Front National se structure véritablement grâce à l'Europe? Est-ce que grâce à l'Europe, grâce au Parlement européen, le Front National forme ses cadres et le Front National dispose de budgets conséquents pour ses différentes campagnes?
Mais bien sûr, le Front National bénéficie ici d'infrastructures dont il use et abuse pour mieux détruire l'idée européenne et s'en servir en France pour détruire l'idée européenne qui est quand même l'espace d'avenir de l'Europe. C'est pour ça que vous, les journalistes, qui j'espère aspirent à une certaine forme de démocratie, de débat, de débat éclairé sur la question européenne, et nous,
les démocrates,
on a un travail de déminage à faire. Il faut quand même savoir
qu'est-ce que vous déminez dans votre livre. suivre. Un exemple concret.
Madame Le Pen considère que ses élus, pas elle, parce qu'elle est là simplement de temps en temps pour aboyer en plénière. Et d'ailleurs, quand il y a des votes très importants, elle n'est pas là. Hein. Quand il faut voter sur le CETA, l'accord avec le Canada, qui soi-disant est l'alpha et l'oméga de l'horreur, elle n'est pas là.
Ça a été relevé justement par Jean-Sébastien Lefebvre, le premier.
Quand il faut voter le budget de la zone euro, qui est un aventurisme fédéraliste irresponsable, elle n'est pas là pour le voter. Quand il faut voter un rapport pour transformer l'agriculture, pour la rendre plus écologique, plus sensible à la question biologique, soutenir les agriculteurs en termes d'emploi,
elle n'est pas là.
Elle est pas là.
S'il y avait une pub, j'étais là.
Elle n'est pas là. Et alors, ils ont une capacité à faire du chiffre. Hein. Ici, il faut que les élus du Front National soient bien classés. Et donc, les backbenchers, les députés de base de Mme Le Pen, font du chiffre. Et donc, Mme Bild pose des questions écrites. 275 questions écrites. Ça représente 1500 euros chaque question écrite. Est-ce qu'il faut la traduire? Il faut, etc. Donc, ce qui signifie que les questions de Mme Bill ont coûté au budget européen 500 000 euros. Et alors, ce qui est étonnant.
Et donc, aux contribuables.
Mais ce qui est intéressant, c'est que le Front National.
Est-ce qu'on peut donner un exemple de question, ensuite on va donner la parole. Je peux vous le donner. Florian Philippot. Donc, on voit, la plupart du temps, les populistes disent l'Europe s'occupe de tout et de rien. Elle s'occupe des petites choses, c'est n'importe quoi, mais il faut que l'Europe s'occupe juste des choses importantes. Proposition de résolution de Florian Philippot, c'était en septembre 2016. Je cite : le Parlement européen demande à la Commission européenne d'entamer une réflexion sur la façon d'intégrer l'élimination du meulage des dents de cochon aux stratégies nationales d'amélioration du bien-être animal.
Vous blaguez.
Et il y en a, je vous le promets, on le voit à l'image. Et il y a des quantités de propositions de résolution dans le genre sur les lévriers, sur les porte-clés animaux, sur les expérimentations sur les rongeurs, sur les courses de chiens, sur les cailles, sur les pintades, sur les poules, sur les poussins. À chaque animal, il y a sa question ou déclaration écrite. Et en gros, c'est pour faire du chiffre, c'est pour faire de la stat. Et comme ça, ils arrivent en tête des classements. Mais parce qu'au lieu de faire une résolution commune où on parle des cailles, des poulains et des poussins, etc., eh bien, on en fait une à chaque fois. Et ça coûte, comme vient de le dire Pérange Berès, 1500 euros.
Mais
à chaque fois,
ça a l'air presque anecdotique. Mais le plus grave, c'est le fond des propositions du Front National. Parce que ce qu'on voit, c'est que il y a un problème sur l'agriculture, il faut supprimer la PAC. Il y a un problème sur l'économie et sur le chômage, il faut supprimer l'euro. Il y a un problème sur le terrorisme, il faut mettre des frontières. Et c'est mentir aux Français. C'est vraiment les mettre dans le mur. Et quand Mme Le Pen pense que la France pourrait quitter l'Union Européenne comme ça, d'un claquement de doigts. Enfin, écoutez, les Français doivent regarder quand même que le Royaume-Uni, qui n'est pas dans Schengen, qui n'est pas dans l'euro, n'arrive pas à s'en sortir. Oui. Ça fait plus de 9 mois que le Brexit a été voté et que Mme Theresa May ne sait toujours pas quoi proposer à son peuple.
Voilà, donc c'est pour ça que vous publiez le Front National au Parlement européen. Et vous, je suis en quatre mers, vous publiez les salauds de l'Europe. Les salauds de l'Europe, c'est qui? C'est les eurosceptiques ou c'est les eurocrates pour vous?
Les eurosceptiques, les eurocrates, les dirigeants nationaux. Par exemple, François Hollande est un des salauds de l'Europe parce que pendant 5 ans, il n'a strictement rien fait. Vous vous rappelez, il se fait élire en 2012 en disant « Je vais réorienter l'Europe, vous allez voir ce que vous allez voir !» Et pendant 5 ans, on n'a rien vu. Il s'est tu. Pendant 5 ans, il a participé à toutes les petites lâchetés européennes.
Il a quand même sauvé la Grèce au sein de la zone euro.
Pervenche Berès a dit son petit truc qu'il fallait pour couvrir son patron. Continuez, Jean Quatremer.
Mais ce sont aussi effectivement les chefs d'État en premier. Je veux dire, que les chefs d'État désignent Jean-Claude Juncker, que j'adore. J'adore Jean-Claude Juncker, c'est un fédéraliste. Mais il dirigeait un paradis fiscal. Pendant 25 ans, il a transformé son pays en paradis fiscal.
C'est pour ça qu'il a confié cette responsabilité à Pierre Moscovici.
Les députés, les parlementaires européens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils désignent le patron d'un paradis fiscal comme président de la Commission, alors que la principale préoccupation des Européens, c'est quoi? La lutte contre le dumping fiscal et le dumping social. Ce sont aussi les eurocrates qui donnent une image terrifiante de ce qu'est l'Union.
Donc pour vous, l'Europe, c'est un astre qui est mort.
Après, non, on pourrait croire que c'est un astre. C'est-à-dire qu'il est très facile de dresser un portrait à charge de l'Union européenne. Parce que c'est vrai
que vous faites sur 50 pages.
Sur les 50 premières pages, c'est un programme europhobe, je crois, qui est sans doute bien mieux structuré que celui de Marine Le Pen ou de Nigel Farage au Royaume-Uni.
Vous feriez un parfait populiste.
Moi, je dis souvent, quand j'arrive à la Commission européenne, j'entre fédéraliste et j'en sors souverainiste. C'est aussi simple que ça.
C'est pour ça que vous n'y allez plus.
Ces institutions communautaires sont véritablement aujourd'hui détestable. Le seul endroit qui reste à peu près proche des citoyens, et encore, il y aurait beaucoup à dire, c'est le Parlement européen. Donc, il y a un problème. Mais le problème, c'est que, effectivement, un portrait à charge, je peux faire la même chose sur la France. Je peux démolir la France étage par étage, jusqu'à la cave. C'est difficile. C'est facile. Mais est-ce que pour autant...
Mais la France nous apparaît comme une évidence, alors que ce n'est pas le cas du projet européen. C'est pour ça qu'on se pose la question sur l'Europe.
Parce que le projet européen a 60 ans. Imaginez la France après la bataille de Bouvines en 1214, où elle en était en 1274. Je veux dire que ça s'est construit lentement. Donc dans l'Europe, il y a des choses qui dysfonctionnent, il y a des choses qui doivent être changées d'urgence, mais il y a aussi des choses qui fonctionnent. Et c'est cette espèce de bilan que je tente de faire après 60 constructions communautaires, et de mettre le doigt là où ça fait mal, mais de dire aussi, attention, il y a énormément de mensonges qui sont comportés. Et les principaux responsables, c'est pas les europhobes, ça moi je le soutiens, les principaux responsables de ces mensonges, et du fait que ces mensonges aient des succès, ce sont les partis de gouvernement qui n'assument plus l'Europe. Je veux dire, quand j'entends des gens de votre parti, Madame Berès, qui disent « Oh, si je suis élu, je vais aller à Berlin casser la vaisselle », quand j'entends des gens dire « Il faut donner tout le pouvoir
Arnaud
au Conseil européen », Arnaud Montebourg, « Il faut donner tout le pouvoir au Conseil européen alors qu'il l'a déjà », etc. Il y a un souci majeur.
Je crois quand même que la question de la France dans la construction européenne, ça va être un des enjeux de cette élection. Donc je propose que
je crains que non, c'est les affaires. Ce sont les affaires.
Dominique Riquet, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'un parti, quand même, l'UDI, qui revendique sa croyance dans le projet européen.
Je suis très content. Non, mais je suis très content d'entendre ce qui est dit, c'est-à-dire les salauds de l'Europe, finalement, c'est le Conseil et les États membres. Véritablement, le projet intégrateur de l'Europe, il est quand même situé au Parlement.
La Commission.
Et le projet des intégrateurs au Conseil. Bon, alors, c'est clair que c'est très compliqué de faire avancer un projet comme celui-là, qui est quand même un projet de synergie avec des gens qui s'emploient à le démonter en même temps. Donc, la défense de l'Europe, elle passe pas par moins d'intégration, c'est des europhobes, plus d'intégration.
Et c'est vrai. Une meilleure intégration.
Pas n'importe quelle intégration.
Pas n'importe quelle intégration.
Si c'est une intégration qui fait que la libre circulation des capitaux et qui s'occupe pas des travailleurs détachés, ça va pas marcher.
Jean-Sébastien Lefebvre, ce qui est nouveau dans ce qui est écrit, alors là où ils sont pas tout à fait d'accord, Pervenche Berès et Jean Quatremer,
mais lui,
qui
il a mis à attaquer le Parti Socialiste, alors
voilà.
Ça c'est...
Mais c'est en fait Jean Quatremer, en gros, l'aveu de Jean Quatremer aujourd'hui, Marine Le Pen pourrait tweeter là-dessus, c'est qu'il dit que les populistes, les eurosceptiques ont raison sur un certain nombre de points.
Ils ont raison sur certains points, on pourrait dire ça, mais en même temps, mais le problème, c'est comme disait Mme Berès, c'est qu'ils veulent jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que on peut dire d'un coup, oui, l'euro, ça marche pas bien. Effectivement, il y a plein de choses qui fonctionnent pas correctement dans l'euro. Il y a des déséquilibres entre les économies des pays. Il y a pas de transfert financier
pour rééquilibrer.
Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on démonte tout, sachant qu'on ne sait absolument pas comment démonter l'euro. Bon, il faut arrêter de penser qu'en claquement de doigts, une future présidente de la République pourrait dire l'euro, c'est fini. Faire que la France quitte l'euro, c'est fermer les banques, faire la queue aux distributeurs pour aller chercher de l'argent, comme les Grecs en 2015, parce qu'il faut éviter que les capitaux s'en aillent. Ou alors on se dit, bon, on a un problème, il faut essayer de le résoudre, et comment on fait avec les majorités politiques qui existent en Europe. Est-ce qu'on casse tout parce qu'on n'est pas content comme un enfant?
En même temps, ce qui est intéressant, Dominique Riquet, c'est que l'Union européenne, c'est la dernière utopie politique pacifiste qui existe.
C'est pas une utopie.
On est en train de s'aborder.
C'est un espace de paix, de démocratie quand même. Bon, on n'a pas parlé de ça, mais dans le monde où on vit, je trouve que c'est quand même assez sympathique d'être dans un espace où les droits de l'homme, la démocratie sont encore défendus de manière, je dirais, intangible. Bon, même s'il y a, notamment dans nos frontières de l'Est, quelques un peu de tirage, mais il est clair que tous ces acquis-là, finalement, on considère que... ils sont passés par perte et profit. En réalité, il y a des choses extrêmement importantes qu'on défend. Bon, on discutera peut-être tout à l'heure des bénéfices objectifs, économiques, financiers, etc. Mais moi, le premier bénéfice que j'ai, c'est que, bon, finalement, j'aime assez vivre dans cet espace politique-là, oui, sûrement.
Jean-Sébastien Lefebvre.
Mais après, ce qu'il faut voir dans le débat en France qu'on a sur l'Europe, c'est qu'en fait, au fond, l'Europe, c'est l'impensé politique par excellence en France. Ça veut dire que, d'une, on n'en parle quasiment jamais en français, une fois tous les 5 ans pour les élections européennes et un peu pendant la présidentielle. Et non, j'ai pas dit que les Français n'en parlaient pas entre eux, mais je veux dire dans l'espace public. Et en fait, les hommes politiques français font toute leur carrière en France, viennent à Bruxelles pour certains juste le temps de retrouver un mandat plus tard en France. Ce qui fait que quand il faut développer des idées sur l'Europe, finalement, c'est des poncifs qu'ils ont. Typiquement, j'ai vu l'organigramme.
Ça, c'est peut-être en train de changer quand on voit qu'en Allemagne, maintenant, Martin Schulz, le président du Parlement européen. Non, mais d'accord, mais peut-être qu'on
regardez l'organigramme, on va reparler du Parti socialiste. La gouvernance de monsieur Hamon pour la campagne. Il y a une députée, Isabelle Thomas, députée européenne, qui est en charge de l'Europe. Elle est en charge de tous les sujets sur l'Europe.
Mais non, mais moi, je suis responsable des investissements stratégiques. Vous voyez bien que la question européenne, elle va irriguer totalement ce que je vais proposer à Benoît Hamon quand on va parler investissement stratégique.
Certainement, là, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Jean-Sébastien Lefebvre. C'est que c'est pas vrai qu'on ne parle pas d'Europe entre deux élections. Les partis europhobes parlent d'Europe non-stop. Les seuls qui ne parlent pas d'Europe, ce sont les partis de gouvernement.
Ils ne parlent plus des immigrés, ils ne parlent plus d'Europe maintenant.
Oui, non, ils parlent
plus d'Europe. Ils sont carburants, c'est l'Europe.
Hier, par exemple, la semaine dernière, c'était la semaine dernière, Madame Le Pen, non, c'était cette semaine, Madame Le Pen était au Salon de l'agriculture et elle a parlé de la politique agricole commune. Et elle l'a démolie, mais démolie avec des mensonges absolument monstrueux. Est-ce que, en retour, on a vu des Français, des députés français, etc., enfin de partis démocratiques, venir défendre la PAC en disant, mais non, Madame Le Pen, là, a menti.
Nous, avec Éric Andrieux, on a redit ce qu'a fait Madame Le Pen ici.
Vous dites que le Front National trahit les travailleurs et les agriculteurs.
Bah, bien sûr.
Ici.
Bah oui, ça, c'est une évidence.
Mais concrètement, comment?
Non, mais moi,
je vous l'ai dit tout à l'heure, mais concrètement, comment?
Parce qu'il leur propose, un zéro futur. Je veux dire, il faut quand même reconnaître qu'on a un problème avec l'agriculture. C'est une évidence. Peu les salauds de l'Europe aient massacré l'esprit de solidarité de la politique agricole commune qui fait que certains peuvent imaginer qu'ils voudraient mieux renationaliser. C'est juste. Mais moi, je ne renonce pas à l'idée que, en Europe, c'est le meilleur moyen, par exemple, d'atteindre les objectifs de la COP21, de se servir de l'espace européen pour avoir une agriculture intelligentes qui permettent aux agriculteurs de vivre dans leur territoire et à l'Europe d'être une force d'innovation, d'intelligence en matière agricole.
Mais ce que dit pas Marine Le Pen, c'est où elle dit je vais renationaliser. La question c'est est-ce qu'elle va pouvoir maintenir le niveau d'aide actuel que fournit l'Union européenne à ses agriculteurs. Il va falloir qu'elle trouve 9 milliards d'euros. Où va-t-elle prendre ces 9 milliards d'euros exactement? Est-ce qu'elle va les prendre dans le budget de l'éducation, dans le budget de la défense, dans le budget de la sécurité sociale? Il est évident qu'une France seule n'aura pas les moyens de se payer la politique agricole commune actuelle. Les Britanniques, par exemple, viennent de s'en apercevoir, ils reçoivent 3 milliards d'euros par an, et là, on vient de leur dire, à partir de 2020, il n'y aura plus d'aide directe, parce que nous n'avons pas les moyens de payer cette politique agricole commune.
Et vous devez 60 milliards à l'Union européenne.
En plus.
Merci beaucoup, Pervenche Pérez, eurodéputé socialiste, auteur. Non, alors cette première partie de l'émission est terminée. Ça va vite quand vous parlez. C'était long. Le FN au Parlement européen, aux éditions, sous l'égide de la Fondation Jean Jaurès. Merci, Pervenche Pérez. Jean Quatremer, vous, c'est les salauds de l'Europe, avec votre photo. Et ça sort le 25 mars, au moment du traité de Rome.
Au moment du 60e anniversaire
du traité de Rome. Voilà. Vous restez avec nous, Jean-Sébastien Lefebvre. Dominique Riquet, on se retrouve juste après la pause, on va poursuivre la discussion sur les salauds de l'Europe, et puis après j'aimerais beaucoup avoir les explications de Dominique Riquet sur son assertion, l'Europe est la grande gagnante de la mondialisation. A tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, où nous parlons des salauds de l'Europe aujourd'hui. Il y en a un sur le plateau. Et on commence à avoir les mêmes blagues. Le vieux couple, je ne vous dirai pas lequel c'est. Bon, on va dire qu'il y a deux salauds sur le plateau. Les salauds de l'Europe guident à l'usage des eurosceptiques et des eurocrates, un petit peu. C'est apparaître le 25 mars chez Calman Levy, de la plume de Jean Quatremer. Avec nous également Dominique Riquet, eurodéputé UDI, et Jean-Sébastien Lefebvre de Context. Jean, votre livre, en gros, il est sur l'UE-RSS. C'est à peu près ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites, le Brexit, c'est la démonstration qu'il y a un vrai droit de sécession en Europe. Mais ce n'est pas une prison.
L'un des arguments majeurs des eurosceptiques, c'est de démontrer que l'Europe, effectivement, c'est l'UE-RSS, que Bruxelles, c'est la nouvelle Moscou, qu'on ne peut pas en sortir, qu'on ne respecte pas la volonté des peuples, que l'Europe n'est pas démocratique, etc. Le Brexit, c'est c'est génial. En fait, c'est un cauchemar pour eurosceptiques, le Brexit. Parce que là, ils ont la démonstration que, un, lorsqu'un pays veut sortir, il peut sortir. Deux, lorsqu'un pays ne veut pas revoter à un référendum, eh bien, il ne revote pas. Donc, et que l'Europe respecte la volonté des peuples et respecte la démocratie nationale. Ils sont embêtés. Et en plus, on voit depuis un an, que ben, ils arrivent pas à sortir, parce que normalement c'est bizarre. Le 23 juin 2016, on dit voilà, on vote la sortie. Le lendemain, on notifie l'article 50 et on est sorti au bout de 6 mois. C'est si simple de sortir et on n'y arrive pas. C'est quand même curieux. Donc ça montre bien qu'il y a un malaise.
Dominique Riquet, quand Jean Quatremer dit dans son bouquin les élites européennes sont incompétentes et corrompues, vous vous sentez visé? Non, je vous taquine, mais là, il parle, en gros, vous dites, en l'époque de l'or, l'ami est révolu, maintenant, il y a les revolving doors, il y a le pantouflage, quand on passe par Bruxelles, ensuite, on va travailler pour Goldman Sachs et autres, c'est pas comme l'ami, bon, lui est allé à l'OMC, mais maintenant, il travaille pour des fondations et autres, c'est pas quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent.
Et le service public, c'était ça, je dirais, les élites de l'Europe. Aujourd'hui, bon, même
mais,
quelqu'un
mais,
comme
la question, là, maintenant, on parlait avec Dominique Riquet, mais j'essayais juste d'adoucir un petit peu. Voilà. Et de mettre un petit peu de sucre sur la question vache que j'ai posée.
C'est greed is good
aujourd'hui. Greed is good, la cupidité, c'est bon. Je pense que
il y a deux problèmes dans la question. Il y a les élites et européennes.
Ouais.
Alors, est-ce que les élites, en général, elles représentent le parangon de la vertu? Je suis pas sûr, parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut faire preuve d'un certain nombre de qualités, je mets des guillemets, qui sont pas toujours compatibles avec la grande vertu. Je pense que les élites, bon, c'est comme ça, bon, c'est composite, et les élites européennes, elles sont comme les élites en général.
Et c'est un reflet.
Je pense qu'effectivement, on est en démocratie, elle reflète finalement l'image de la société. Il y a peut-être et même probablement des gens qui ne sont pas des parangons de vertu. Je pense aussi qu'il y a des gens vertueux.
Est-ce que l'Union européenne est démocratique aujourd'hui, Jean-Sébastien Lefebvre?
Ça dépend sur quel sujet. Sur un sujet comme la politique agricole commune, c'est de la codécision, ça veut dire c'est le Parlement et les États membres qui décident entre eux comment on va réformer la politique agricole commune. Sur la zone euro, non. Parce qu'aujourd'hui, la zone euro, les grandes décisions importantes sont prises par l'Eurogroupe, qui est une réunion de ministres des Finances de la zone euro. Ils sont 19 à huis clos. Ils ont plus ou moins un droit de vie et de mort sur ce qui est décidé pour un État avec sur les questions économiques comme la Grèce pendant les plans de sauvetage. Et là, on peut pas parler de démocratie. Ah bah,
donc il faudrait un Parlement, un budget de la zone euro, un Parlement de la zone euro.
Ça fait partie des pistes, mais au moins, dans ce cas-là, se dire que même le Parlement actuel pourrait avoir son mot à dire.
Regardez ce que j'ai entre les mains, une page blanche. Jean Quatremer, je la mets devant vous. Vous avez une page blanche. Qu'est-ce que vous faites de l'Europe?
Ça, c'est la page blanche. Ça me rappelle la signature du traité de Rome en mars 1957.
Ah, vous aviez 18 ans.
Et je me rappelle, j'avais 25 ans.
Non, mais ça déjà.
Comme le traité n'était pas encore totalement rédigé, ils ont signé des pages blanches.
Incroyable cette anecdote. Non mais sincèrement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait de l'Europe? Ce que vous m'avez dit, c'est la Commission, déjà, on l'a fait passer de 30 000 fonctionnaires à 10 000. Et on prend que des bons.
Alors, je pense qu'il y a des réformes.
C'est ce qu'il dit. C'est là-dessus que je lance.
Non. Il y a des réformes qui peuvent être faites en quelques minutes et qui nécessitent juste 5 minutes de courage politique. C'est pas compliqué. Je veux dire, l'exemple, le Conseil européen. C'est une boîte noire de la démocratie qui décide à l'unanimité de l'avenir de l'Europe, qui se réunit quasiment une fois par mois, parfois une fois tous les deux mois. Il faut changer ça. Donc moi, je suis pour deux réunions maximum du Conseil européen et que leur réunion soit diffusée. Parce que, après tout, c'est une espèce de Sénat des États. On doit savoir ce qui s'y passe. Et que les chefs d'État, en sortant, ne nous racontent pas chacun une histoire différente.
Mais il ne s'y passe plus rien.
On pourrait faire le Conseil des ministres en France aussi, comme ça, mais sauf que
là, c'est vraiment, comme c'est les États qui sont les maîtres de la compétence, qui ont la compétence de la compétence, c'est eux qui décident de tout au départ et à l'arrivée avec la comitologie. Donc, ça serait normal qu'on soit informé des décisions qui s'y prennent.
Je pense que c'est la transparence de la politique en général.
En général.
Et quand Jean Quatremer écrit un papier, il faudrait filmer ses sources, il faudrait le filmer en train d'écrire en pantoufle chez lui.
C'est pas du tout la même chose, encore une fois. Je veux dire que le Conseil européen, quand il se réunit, c'est une assemblée qui décide d'orientation législative. Il donne des ordres aux législateurs.
Transparence du Conseil européen qui se réunit moins.
La Commission aujourd'hui ne remplit plus son rôle. C'est plus une administration de conception, c'est une administration de gestion.
D'accord.
Il y a un problème fondamental. Cette Commission ne produit plus rien. Il n'y a plus de pensée au sein de cette Commission. La réforme Kinnock de 2004 est une catastrophe.
D'accord.
On recrute aujourd'hui des gens, non pas qui sont engagés, non pas des gens qui ont une vision politique, et qui connaissent l'histoire de l'Europe, on engage des gens qui sont à la recherche de bons salaires et qui ont des compétences de management. C'est skill, compétence and management. Et ça, c'est un truc qui doit être changé totalement. Et moi, je pense que dans cette commission, il y a un nombre d'incapables. Alors, il y a peut-être 10 000 ou 5 000 personnes, qui sont brillantissimes. Et il y a des tas de gens qui sont dans des bureaux et qui ne font strictement rien et qui sont surpayés. Et bien, je suis désolé. Quand vous avez des gens qui sont payés 7 000, 10 000, 15 000 euros au Parlement européen, prenons le secrétaire général des groupes politiques, par exemple, qui gagne plus qu'un ministre ou qu'un président de la République en France, ça pose un problème de légitimité. Si les gens sont effectivement des gens très compétents, recrutés pour leur engagement, leur niveau de salaire ne posera aucun problème.
On a compris l'idée. Donc vous passez, ça me paraît un peu utopique, présenté
non,
comme ça.
Non, c'est parce qu'elle l'a mis, par exemple, m'a dit, très clairement, je l'ai rappelé à nouveau.
Mais vous voulez une commission politique ou qui resterait très technique, mais juste avec des bons?
Non, une commission politique. D'accord. Et ce que Pascal Lamy, qui était ancien directeur général commerce, disait, c'est avec un tiers de la DG commerce, je faisais le même travail et je le faisais mieux. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui a géré.
Jean-Sébastien Lefebvre.
Du tout d'accord.
Jean-Sébastien n'est pas du tout d'accord.
Dans le sens où, aujourd'hui, oui, la commission a une part de gestion, parce que effectivement il faut gérer 60 ans d'acquis communautaires, 60 ans de règles, et il faut arrêter de penser la commission comme un tout. La commission, c'est des directions générales, et une direction générale, c'est quoi? C'est un ministère, c'est tout. Et un ministère doit gérer l'administration pour faire tourner... Mais sauf que, par exemple, on dit on coupe, on prend 10 000 fonctionnaires. Moi, je vois pas comment la DG Agri, Direction générale de l'agriculture, qui compte en gros 950 personnes, qui gère la réforme de la PAC pour tout.
Mais non, mais si l'Europe, la PAC est nationalisée, c'est bon.
Voilà, si on nationalise. Mais je veux dire, au bout d'un moment,
non,
se dire...
On crée des agences. Il y a une série d'agences.
Mais ça revient au même. Mais oui. Sauf que, non. Il faut arrêter. La commission, c'est pas un tout. On mélange commission, service administratif, commission politique. La commission politique, c'est Juncker et les commissaires. La commission qui sont finalement des ministères, on pourrait appeler ça comme ça, ce sont les DG, et c'est pas
Qu'est-ce
parce que...
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Dominique Riquet?
Moi, je pense qu'on manque de moteur politique. C'est-à-dire, ce qui est un moteur politique en Europe, c'est le Parlement, mais il n'a pas d'initiative, donc le moteur est grippé. C'est la Commission qui est...
C'est important, ça.
Je crois que les deux disent... Vous dites tous les deux quelque chose de juste. C'est-à-dire que la Commission, elle apparaît comme obèse et un peu paralysée, parce que... Mais elle a des tâches de gestion très importantes
de
la crise,
voilà.
Mais en même temps, elle manque de moteur. Et alors, surtout, le frein, c'est le Conseil. Et le Conseil des chefs d'État et de gouvernement et le Conseil des ministres, c'est un frein qui est serré. Alors, vous manquez de moteur avec les freins serrés.
En même temps, est-ce que l'Europe s'occupe vraiment? On dit, on entend, l'Europe s'occupe de 80% de notre législation. Nous vient de Bruxelles.
C'est un vieux chiffre qui date de l'époque de l'or, justement, les années 80-90. Parce qu'il a fallu beaucoup transposer à l'époque. Donc il y a eu beaucoup de reconnaissance.
Est-ce qu'on est quand même dans le 80-20, mais en fait, il est inversé? Est-ce que c'est plutôt 20% de législation européenne et 80% de législation nationale, Jean?
En moyenne, je dirais que le taux de loi nationale d'origine européenne, c'est entre 15 et 20%.
Ah,
toutes les études universitaires le montrent. Parce que les compétences européennes, contrairement à ce qu'on croit, sont des compétences périphériques. L'essentiel de la compétence aujourd'hui, elle est nationale, comme la compétence budgétaire, par exemple.
Ça dépend sur l'organisation. Oui,
98% en tous les cas, à peu près, des compétences nationales, elles sont dans le cadre national. Donc simplement, juste pour terminer sur cette question aussi des réformes, le Parlement européen, je pense qu'il faut aussi le réformer. Formé profondément, parce qu'aujourd'hui le Parlement européen ne représente pas grand-chose, il ne représente pas les peuples. Moi je suis désolé, le fait qu'un Maltais ait besoin de 12 fois moins d'électeurs qu'un député français, par exemple, ça veut dire qu'un homme n'écale pas une voix. Alors c'est jamais mathématique dans tous les parlements du monde, mais là au Parlement européen, il y a un problème. La France, par exemple, est sous-représentée.
Si on voulait avoir la même représentativité, on se retrouverait avec un eurodéputé maltais et 400 français.
Oui, non, vous pourriez avoir deux Maltais et déjà avoir une centaine de députés français. Ça me paraît le minimum de sa présence.
De la table aujourd'hui, Jean Quatremer de Libération, Dominique Riquet de l'UDI, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte. Après la pause, on va revenir sur cette déclaration fracassante de Dominique Riquet faite ici dans le couloir du Parlement européen. Et je voulais qu'on en débatte ici autour de la table de 500 millions d'Européens. L'Europe est la grande gagnante de la mondialisation. Oh, ah bon? Oui, ben c'est Dominique Riquet qui va nous expliquer ça. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Nogues.
Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens, avec nos invités Dominique Riquet, eurodéputé UDI, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte, Jean Quatremer, qui publie Les salauds de l'Europe, guide à l'usage des eurosceptiques. Jean Quatremer qui arrive avec son petit papier dans sa pochette et qui dit pub. Regardez, c'est à l'image. Regardez, Jean, c'est à l'image des salauds de l'Europe. C'est la technologie, papy Jean. C'est comme ça que ça s'appelle. Bruxelles. Maintenant, on va... C'est la revue de presse dans la deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. Bonjour Éric Scholl.
Bonjour.
Oh, bonjour, le patron de la rédaction de Courrier International. Vous nous emmenez où allez, emmenez-moi en Italie, Éric.
Je vous emmènerai en Italie, mais on ira aussi à côté de chez vous, en Belgique, et puis petit tour en Hongrie, à Budapest, on verra pourquoi. Et puis on ira dans les pays scandinaves, et précisément au Danemark. Oui,
pour se poser cette question, peut-on brûler un Coran? A priori, j'ai quand même déjà un début de réponse hein, pour vous. Merci Éric, et puis on va revenir tout de suite sur cette déclaration fracassante de Dominique Riquet. L'Europe est la grande gagnante de la mondialisation. Pour réagir, hashtag 500ME.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.
Donc, Dominique Riquet, après avoir parlé des populistes, des europhobes, de tous ceux qui surfent sur le fait que l'essentiel de la population européenne considère que l'Europe est la grande perdante de la mondialisation, comment pouvez-vous affirmer que l'Europe est la grande gagnante de la mondialisation ?
Elle est la grande gagnante de la mondialisation sur plusieurs plans. Bon, premièrement, ce qu'on a coutume de dire, c'est que l'Europe, c'est l'idiot du village global. Voilà. Ouais. Bon, donc, il est perdant. Alors, moi, je vais regarder d'abord, c'est sur le plan économique et financier, parce que c'est ça qui est probablement le plus sensible pour les gens. Bon, sur le plan économique et financier, la balance d'équilibre de la balance des échanges, elle fait que l'Europe, elle dégage 250 à 300 milliards d'euros d'excédent, pas mal pour un idiot, quoi. C'est-à-dire, on vend pour 300 milliards de plus à l'extérieur que ce qu'on apporte, étant entendu que nous avons quasiment pas de ressources énergétiques et pas de ressources en matière première. Donc avec, malgré ce énorme handicap, on arrive à être les meilleurs vendeurs. La deuxième chose, c'est, je prends la balance des paiements, c'est aussi quelque chose qui est très significatif. Bon, eh bien, on touche 40 milliards de plus du reste du monde tous les mois, hein, que finalement les autres. Alors ça, c'est.
Et ça, c'est en gros, c'est grâce aux Allemands.
Alors, mais non. Alors après, il y a quelque chose qui est inégal parce qu'on paye le prix de sa compétitivité à l'intérieur. C'est sûr que les Français, là, sont pas les mieux placés. Mais ils sont quand même très protégés par leur monnaie, quand même. Bon, très protégés par leur monnaie. Et finalement, par un espace qui les protège aussi au niveau des échanges. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est que, dans ces échanges-là, nous, on a transféré les produits manufacturés à l'extérieur, entre guillemets. C'est ça, notre industrie qui tombe. Bon, mais ça veut dire que le consommateur, il les a touchés à des prix qui défient toute concurrence. Actuellement, c'est vrai que ce que vous importez des pays du tiers-monde à qui nous vendons plus que ce qu'ils nous envoient, ben pour les consommateurs, ça veut dire que vous pouvez acheter des télévisions, des téléphones, des voitures ou des vêtements à des prix qui défient toute concurrence. Donc, le pouvoir d'achat, à ce niveau-là, il a été amélioré. Et alors, la troisième chose, c'est que en faisant, dans ces échanges mondialisés, en faisant disparaître une partie de la pauvreté mondiale, puisqu'on sait qu'il y a 1,5 milliard de gens qui sont sortis de la pauvreté, on n'a pas seulement aidé à une bonne action, mais on a aussi créé des clients. Et donc on a créé des débouchés pour notre savoir-faire. Et donc ça veut dire qu'à trois niveaux, celui des échanges, celui du pouvoir d'achat, et celui de la mondialisation comme une création de richesses partagées, on a été les plus profitables.
D'accord. Donc en fait, c'est un peu comme la météo. Il y a les vraies températures et après, il y a les températures ressenties. Et le problème de l'Europe, c'est le ressenti Européens.
Oui. Le ressenti, pour une raison simple, c'est qu'il a fallu qu'on se déplace complètement en termes de structuration économique. C'est-à-dire qu'avant, on avait le charbon et l'acier chez nous, et on était les rois du pétrole, si je puis dire, en produisant des locomotives qu'on vendait dans le monde entier avec notre acier. Et maintenant, plus de pétrole, enfin, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de charbon, on n'a plus d'acier, en tout cas, on n'a plus de métaux. Mais en revanche, on fabrique moins de produits manufacturés, mais beaucoup plus de services à haute valeur ajoutée. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tous les gens qui étaient impliqués jusqu'à la moitié du XXe siècle dans les fabrications manufacturées dont on inondait le marché mondial, il faut les déplacer. Il y a des oubliés, il y a des abandonnés de ça. Et ce qu'on peut reprocher, peut-être pas à l'Europe, hein, mais peut-être au niveau national, c'est de pas savoir bien gérer cette translation-là.
L'Europe est la grande gagnante de la mondialisation, selon Dominique Riquet. Question pour vous, messieurs Jean-Sébastien Lefebvre et Jean Quatremer. C'est QFD ou pas ?
Oui et non. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que, oui, l'Europe gagne avec le libre-échange. C'est vrai qu'on exporte plus que ce qu'on importe. Après, justement, la question majeure, et qui est la question politique du moment, c'est comment on répartit ces bénéfices, ces bienfaits et ces avantages. Parce que dire à l'ouvrier qui a perdu son emploi, mais en fait, tout ça, c'est pour ton bien, c'est compliqué de lui expliquer.
C'est le bien général, on va
mais
dire.
C'est le, voilà, mais après, mais le bien général, lui, il le sent pas. Parce qu'en plus, le bureau de poste, il ferme
les mais ça, juste une réponse à ça.
Oui, une réponse à ça. Très, très juste. C'est... Effectivement, les politiques d'équilibre des échanges, c'est l'Europe. Mais les politiques sociales et fiscales, ce sont les États membres.
Mais pas que, mais pas que les questions sociales, c'est aussi la question de la vision des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, en Europe, une entreprise chinoise peut faire des choses qu'une entreprise européenne ne peut pas faire en Chine. Et ça, pour le citoyen,
problème de réciprocité,
c'est pas
de
compréhensible. Ça veut dire pourquoi nous, les Chinois, peuvent racheter des pans entiers de l'économie. Et nous, par contre, si on veut investir un moindre centime en Chine, il faut qu'un Chinois mette le
Et c'est dans ce sens qu'on est les idiots du village.
Et dans ce sens-là, effectivement. Et là, le grand défaut, finalement, de la construction européenne, c'est de toujours penser qu'au fond, les gens finiront par respecter les règles. Il y a quand même des gens en face qui n'ont pas envie de respecter les règles parce qu'ils trouvent que c'est pas leur intérêt. Et donc, du coup, soit on contrebalance en disant clairement, maintenant, c'est fini, on réajuste. Soit, bah, effectivement, ça continuera à alimenter
je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Sébastien. Non, mais c'est vous qui n'êtes pas d'accord avec moi, c'est différent.
C'est pas
exactement la même chose. Je vais vous donner un exemple. 90% des marchés publics européens sont ouverts à la concurrence étrangère. 30% des marchés publics américains sont ouverts à la concurrence étrangère. Quasiment 0% des marchés publics chinois et je crois que c'est 10% ou 15% des marchés publics japonais. C'est pas normal. Alors, à chaque fois que je pose la question à la Commission, que vous admirez tant, à chaque fois que je pose la question à la Commission, la réponse c'est oui, mais on montre l'exemple. Et ils vont à terme nous suivre. C'est pas vrai. On ne montre pas l'exemple. Et c'est de ce point de vue-là, on est plutôt les idiots utiles de la mondialisation. Et là, je pense qu'il y a un problème. Moi, je me rappelle encore de Pascal Lamy en 2000. Pascal Lamy en 2000, qui expliquait au moment de l'adhésion de la Chine à l'OMC, voilà, c'est fantastique, parce que eux, ils vont se concentrer sur la production des produits à basse valeur ajoutée, pendant que nous allons nous concentrer sur les produits à haute valeur ajoutée. Et des journalistes qui étaient présents étaient absolument sidérés en disant, quoi, vous pensez que 1 milliard de Chinois, ils vont faire ils vont fabriquer des vélos et des charentaises pendant un siècle. Bah, 10 ans après, ils font des voitures, ils envoient des fusées dans l'espace.
Le mot de la fin, Dominique Riquet, là-dessus, et on va passer à la revue de presse.
Oui, c'est passionnant pourtant.
La question, c'est que la mondialisation, en fait, c'est un équilibre entre des pôles de développement très différents. La question que vous venez d'évoquer de relations, par exemple, avec les États-Unis et le Japon, c'est pas la même chose qu'avec la Chine ou l'Inde. C'est vrai que si on avait mis les mêmes règles de départ entre la Chine et l'Europe ou entre la Chine et l'Inde, il n'y avait aucune chance qu'effectivement on arrive à une mondialisation qui fasse progresser tout le monde. Notre 1,5 milliard de clients chinois n'existerait pas, enfin, ou les 300 millions pour ceux qui ont les moyens de le faire. Donc je pense que ça, ce sont des règles dynamiques. On ne doit pas rester, vous avez d'accord, on ne doit pas rester, je suis d'accord avec ce qui a été dit, sur le même État qui serait un État de naïveté dans les échanges. Et c'est d'ailleurs l'objet des traités que l'on essaye de mettre en place. Je vais prendre un exemple qui est assez mal connu, c'est la Corée du Sud qui était un parfait exemple de ce que vous venez de dire. On a maintenant un traité et finalement, on est très bénéficiaire de ce traité. On a équilibré nos échanges. On est en train de le faire
avec... On est excédentaire.
Effectivement, on est en train de le faire avec le Japon. Bon. Et on le fera probablement avec tout le monde.
Tout de suite, la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Direction l'Italie avec vous, Eric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International. C'est l'empire du voucher.
Eh oui, le voucher, qu'est-ce que c'est que le voucher? Ben en fait,
le voucher,
pourquoi on parle de cet empire-là?
Vous dites le voucher.
Mais le voucher, voilà, pas à l'anglaise, mais à la française. C'est une des conséquences les plus flagrantes de, vous savez, de ce qu'on a appelé le Job Act. Hein, le Job Act, c'est la fameuse réforme du travail qu'avait mis en place Matteo Renzi en 2015. Eh bien, c'est cet usage qui est aujourd'hui généralisé du boucher, c'est-à-dire en fait le chèque emploi service. Alors, c'est pas Matteo Renzi qui a inventé ce boucher. Il était en place depuis 2008. Mais par contre, la loi qu'il a installée, eh bien, a été assouplie. Et ça a permis en fait de généraliser l'usage de ce chèque emploi service pour lutter contre le travail au noir. Et alors, c'est l'espresso qui nous explique qu'au départ, le boucher devait servir principalement à rémunérer des étudiants, des retraités, des ménagères ou des saisonniers. Aujourd'hui, son usage s'est étendu, mais à tout un public gigantesque. Vous allez en juger très vite par les deux chiffres que je vais vous donner. Lorsqu'il a été mis en place en 2008, on en avait utilisé à peu près un demi-million en 2008. Et l'année dernière, en 2016, l'État en a vendu plus de 145 millions. Et ça pose quand même un petit problème, nous signale l'espresso, parce que ça ouvre, ça donne naissance à ce que le journal appelle une nouvelle classe ouvrière à protection zéro. Le travailleur ainsi rémunéré, nous dit le journal, n'a aucune visibilité sur son emploi, pas droit au congé maladie ni au congé payé. Voilà, l'espresso, donc c'est une charge un peu comme un de ces aspects du Job Act. Heureusement, il y a d'autres, enfin heureusement, je veux dire pour Matteo Renzi, il y a d'autres journaux qui prennent la défense, notamment le Corriere della Sera qui lui juge que ce fameux Job Act mis en place en 2015, eh bien c'est quand même une réforme structurelle la plus importante depuis 25 ans. En tout cas, il y a débat en Italie sur ce sujet.
Ouais, il peut être content, Beppe Grillo, finalement. Ça y est, les Italiens, ils sont sortis de l'euro, ils sont dans le voucher land. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Dominique Riquet?
Je pense que tous les outils qui sont des outils économiques, financiers ou monétaires, on peut en faire de la fausse monnaie ou de la valeur ajoutée. Mmh. Et là, on voit bien que c'est l'usage qui pose un problème, c'est pas la nature de l'objet.
Alors, en Belgique, Eric, où il y a une recrue atypique pour le gouvernement, on en parle beaucoup ici.
Oui, elle a 37 ans, elle est d'origine kurde de Turquie, elle est membre de la NVA. Elle s'appelle Zuhal Demir et donc elle est aujourd'hui rentrée dans le gouvernement. C'est la secrétaire d'État, je vais vous donner son titre, il est assez long, à la politique scientifique, à la lutte contre la pauvreté, l'égalité des chances et à la politique en faveur des personnes handicapées. Bon, mais tout ça étant dit, Zuhal Demir, elle n'est pas une inconnue complète du grand public, puisqu'elle s'était déjà fait remarquer à la fois par un documentaire auquel elle a participé l'année dernière, mais surtout elle avait posé pour l'hebdomadaire P Magazine, dans une tenue séduisante, voire affriolante, et c'était dans le cadre du Parlement belge, c'était en 2015, et cette photo avait provoqué le buzz. Alors, le journal Le Soir revient sur cette personnalité du gouvernement, et nous explique que si elle s'est fait remarquer, c'est aussi par ses prises de position en faveur de la limitation dans le temps des allocations du chômage, ou encore, dans la même veine, par rapport à la réintroduction des périodes d'essai dans les contrats de travail. N'oublions pas donc que Zuhal Demir, eh bien, elle fait partie de cette alliance néo-flamande, donc le Parti nationaliste flamand de droite. Voilà.
Enfin, Jean Quatremer, vous savez, Éric Scholl, il ne l'a pas remarqué pour ses prises de position politique. Hein. C'est plutôt pour ses photos affriolantes.
Les photos sont absolument extraordinaires. Moi, je dis un peu de sexy dans la politique, elle c'est
quelle
plutôt bien.
Quelle misogynie,
mais non,
quelle
pas du
machiste.
Tout, pas du tout, parce que j'ai une série de photos, justement, de Dominique Riquet, que je publierai un jour, prise dans l'hémicycle du
Direction
Parlement.
Direction la Hongrie, Budapest 2024, le gouffre financier devenu rêve assassiné.
Eh oui, on parle évidemment des Jeux Olympiques, donc de ce retrait de la course de Budapest. Hein. C'est pas la première ville quand même qui finit par renoncer, c'est même la quatrième des cinq villes candidates initialement au JO 2024, parce qu'auparavant il y a eu Boston, Hambourg, Rome, et donc maintenant Budapest a décidé de se retirer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pétition intitulée Nolympia, qui a recueilli plus de 266 000 signatures, et donc Budapest n'est plus dans la course, qui provoque dans la presse plutôt pro-gouvernementale, eh bien un coup de colère, et notamment dans le journal Magyar Idok, on peut lire ceci, qui étaient ces pétitionnaires et que voulaient-ils ? Rien, ni les JO, ni les Paralympiques, ni aucun rendez-vous d'envergure mondiale, ainsi soit-il, restons sur notre bonne vieille jachère magyar, dont nos deux jambes lourdes ne décollent pas depuis des siècles. Hein, c'est la presse plutôt gouvernementale qui pousse un coup de colère face à cette décision.
Pourquoi il y a une presse autre que gouvernementale en Hongrie maintenant?
Encore un petit peu, vous avez raison de le dire, mais encore un petit peu. On retrouve quand même des bons articles dans une presse qui n'est pas nécessairement collée à Orban.
Jean-Sébastien Lefebvre.
Après, ce qu'il faut voir, c'est que en Hongrie, ils sortent d'une période aussi où il y a eu quand même quelques serrages de vis sur l'austérité, parce qu'ils avaient des dettes à rembourser en France suisse, etc. Donc c'est vrai que se dire que par la population, on va faire des investissements en infrastructures sportives alors qu'on pourrait peut-être plutôt faire des efforts sur les hôpitaux, sur la protection sociale, etc. C'est pour le gouvernement, ça aurait été une belle vitrine pour la Hongrie de Viktor Orban, mais en même temps, pour la population, c'est pas forcément de ça qu'on attend.
En même temps, il y a aussi un phénomène de retranchement hein, aussi en Hongrie. Hein.
Mais je pense pas que c'est les mêmes personnes qui veulent se retrancher et qui sont contre les JO.
Mais c'est le pays, c'est tout le monde finalement. Parce que les dirigeants qui sont là, ils ont un fort soutien populaire.
Oui, direction le Danemark à présent. Peut-on brûler un Coran?
À votre avis?
Non.
Donc écoutez, ce qui s'est passé il y a deux ans, enfin pas tout à fait deux ans, c'est en décembre 2015.
Le livre Les Salauds de l'Europe, ça on peut le brûler, mais voilà. Le Coran, non. C'est le livre apparaît chez Calman Neville le 25 mars de Jean Quatremer.
Je sais dans quel alors, c'est précisément ce qu'a fait un Danois de 42 ans qui s'est fait filmer, c'était en décembre 2015, dans son jardin, et il brûlait un exemplaire du Coran. Ce qu'il avait fait ensuite, c'est qu'il avait publié cette vidéo sur un groupe Facebook intitulé « Oui à la liberté, non à l'islam ». Et en plus, sur ce réseau social, la vidéo s'est accompagnée d'un titre, une mention « Pensez à votre voisin, ça empeste quand ça brûle ». Alors, l'affaire aurait pu s'arrêter là, mais en fait, il y a quelques jours, le procureur de la police régionale de la région donc du Jutland du Nord, c'est la partie continentale du Danemark, a décidé d'engager des poursuites contre cet homme parce qu'il estime que brûler un livre sacré, eh bien, c'était une violation de la loi sur le blasphème. Et l'individu encourt jusqu'à 4 mois de prison et on va avoir un procès très bientôt. C'est le journal Leland Posten qui nous raconte cette histoire.
Ce qui était amusant aussi, c'était ce militant anti-européen. La vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux qui essayait de mettre feu. Il avait une cagoule. Il essayait de mettre feu avec un briquet, un drapeau européen, mais il ne s'enflammait pas en raison d'une directive européenne qui empêche certains produits de prendre feu. Voilà. Donc voilà parfois les vertus de l'Union européenne. Merci Dominique Riquet, eurodéputé UDI, d'avoir pris part à cette émission. Merci Jean-Sébastien Lefebvre de Context. Merci Jean Quatremer. Aujourd'hui, c'était un peu un 500 ME exit parce que le partenaire de notre émission, Euranet Plus, cesse ses activités, ce qui nous contraint à mettre 500 millions d'Européens en stand-by. Alors merci à François Langlais qui a mis cette émission à l'antenne il y a 5 ans. Merci Emmanuel Duteil, merci Jean-Michel Salvatore. Merci particulièrement à Stéphane Soumier hein, pour son soutien, son enthousiasme pour cette émission. Merci aux équipes techniques du Parlement européen avec lequel c'est toujours un régal de travailler. Oui voilà, ils nous appellent les grosses têtes de l'Europe ici. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup rire l'ingénieur du son, Christophe. Merci à nos chroniqueurs, évidemment Eric Scholl, Fred Coderlier, Florence Autret, Charles de Marcy, Jean-Sébastien Lefebvre, Jean Quatremer. Merci à Alexandre Rougier, à Hélène Leroux pour leur soutien sans faille. Merci à vous de nous avoir supportés. Peut-être à bientôt. Non, en fait, sûrement.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.